Saint Antoine, c'est un saint populaire, très connu, sans doute un des plus populaires et des plus connus, qui sera canonisé en 11 mois. Saint François d'Assise a eu besoin de 4 ans, enfin, il était reconnu déjà comme il santo de tout le monde, mais Antoine, c'était bouleversant et il est mort 8 ans plus jeune que son fondateur, puisqu'il est mort à 36 ans. Au fond, il y a quelque chose de très proche entre saint Antoine et sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vous savez. Non seulement le fait qu'il rejoigne la patrie, la maison du Père, très jeune, mais aussi toute une circonstance de spiritualité, de simplicité qui les rejoint. Et je crois que c'est un saint qu'on invoque assez régulièrement, dont on voit le nom partout, mais dont on sait très peu de choses. C'est important peut-être d'approfondir un petit peu ce que Dieu veut nous dire à travers les saints. Quand on se tourne vers les saints, vous savez bien, ce n'est pas pour en faire des idoles, les saints ce sont des doigts qui montrent le ciel. Alors, il ne faut pas s'arrêter aux doigts quand on montre la lune. Le proverbe chinois qui dit « quand quelqu'un montre la lune, l'imbécile regarde le doigt ». Ce n'est pas ça qu'on veut regarder, c'est la lune qu'on veut regarder, c'est la splendeur de la création et du Créateur là, qu'on veut regarder à travers le saint. Et donc le saint va nous montrer le ciel. Quand le curé d'Ars est arrivé à Ars, il a dit à un petit garçon « Où est l'église, mon petit ?» Il a dit « L'église, c'est par là. » Alors le curé d'Ars, tu m'as montré le chemin de l'église, moi je te montrerai le chemin du ciel. Les saints sont des gens qui nous montrent le chemin du ciel pour aimer Dieu, le découvrir et trouver la place dans la vie. Le Canal Journée disait toujours que les saints sont à l'évangile ce que la musique jouait à la musique notée. Je vous lisais une partition sous les yeux, on a un peu de peine parfois à découvrir ce que ça veut dire réellement. C'est pas évident du premier coup pour un amateur et pour un ignare, c'est absolument impossible. Par contre, quand on entend une symphonie, bah tac, ça sonne tout de suite, on sait ce que c'est. Les saints jouent la symphonie de l'évangile. Ils jouent avec une note particulière, l'instrument particulier qu'ils sont, mais ils jouent la symphonie de l'Évangile. Ils jouent la bonne nouvelle, ou on pourrait dire plutôt que l'Esprit-Saint joue à travers eux l'Évangile. Et de telle manière qu'on voit, on entend, l'Évangile devient concret à la lumière des saints. Et saint Antoine de Padoue est un de ces amoureux du Christ qui joue l'Évangile avec une note particulière. Alors, il la joue à une époque de l'histoire qui est la fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle. Antoine de Padoue est né... On ne sait pas très bien, on n'était pas aussi soucieux des anniversaires qu'on l'est aujourd'hui à l'époque, donc entre 1190 et 1195, à une époque de grands bouleversements dans l'Église et dans la société en général. D'abord un bouleversement social extrêmement important, puisqu'on sort un petit peu du Moyen-Âge, il y a encore bien sûr, mais le Moyen-Âge est en train de changer complètement d'attitude, de l'ère féodale avec les seigneurs, où la propriété terrienne était l'essentiel. On arrive à tourner un petit peu à l'ère des marchands. C'est les grandes découvertes, c'est les voyages, et l'argent devient roi. Il y a une pauvreté qui commence à s'installer, une misère qui s'installe un petit peu dans la société médiévale. Les villes prennent de l'importance, les villes naissent, elles revendiquent leur autonomie contre les seigneurs féodaux, et au fond, on voit un monde mangé par l'argent, s'universalisant, se mondialisant, pourrait-on dire, parce qu'on sort des frontières des petits pays. On verra que pour Antoine, l'Afrique du Nord, l'évangélisation dans les terres musulmanes, c'est quelque chose d'important. Et en même temps, se localisant, les petits seigneurs qui se battent les uns contre les autres, les grandes guerres intestines, ça change beaucoup notre époque, vous voyez, le pouvoir de l'argent, la guerre, la mondialisation, on est très loin de l'an 2000. En même temps, l'Église vit aussi une certaine tragédie, fin 2e siècle, début 10e siècle, extrêmement douloureux, avec des papes complètement corrompus, des choses vraiment pas belles. Il y a eu une reconquête qui était admirable avec la réforme grégorienne et tout ça. Mais on arrive à une époque aussi où le pouvoir temporel est important, il l'emporte un petit peu sur le pouvoir civil. On utilise facilement de l'arbre de l'excommunication pour asseoir son pouvoir. Le clergé est pris dans la richesse, le luxe, les mondanités. Il y a des choses merveilleuses comme l'abbaye de Cluny qui se répand partout. L'abbaye de Cluny a été fondée dans les années 910 et c'est elle, les moines de Cluny, il y en aura 50 000 dans plus de 80 monastères qui se répandront sur tout l'Occident chrétien, qui transformeront cette terre chrétienne, qui la rempliront de louanges et qui en même temps sèmeront la parole, évangéliseront, apprendront aux gens à travailler. Cluny est là et Cluny, ça fait déjà 2 siècles qu'ils sont là, donc c'est pas toujours facile, hein. Après 2 siècles, on prend un peu d'âge, on a des rhumatismes, la ferveur n'est plus celle toujours du départ. Devant cette tragédie, il y a plein d'hérésies qui sont en train de se lever. D'abord, il y a des gens comme Béranger de Tours qui avaient nié la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Donc, il y a tout le problème des sacrements qui est posé. Il y a les cathares. C'est une hérésie. Saint Antoine de Padoue luttera beaucoup contre les cathares. Les cathares, je peux dire 2 mots maintenant déjà, une sorte d'hérésie qui était là au début du christianisme déjà.